Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Mila Kouloutou-Koumouli, le président de l'Éveil océanien. Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être dans nos studios. Votre actualité, c'est notamment les 5 ans de l'Éveil océanien. Il a été créé en mars 2018. Vous avez célébré cet anniversaire, vous avez fait la fête un peu ?
Oui, absolument. Nous avons fêté normalement, le 2 mars dernier, les 5 ans de l'Éveil océanien. Nous avons rassemblé les comités locaux de nos structures, qui représentent une centaine de personnes, hyperactives, pour rassembler nos troupes, pour fêter ces 5 ans.
Vous êtes représenté sur l'ensemble de la Calédonie aujourd'hui, ou surtout dans la province sud ?
Ben pour l'instant, que dans la province sud. Donc ça, ce sont les résultats de 2019.
Donc, mais dans les militants aussi ?
Oui, dans les militants aussi, qu'en province sud pour le moment.
Et quel bilan est-ce que vous dressez 5 ans après ? Est-ce que vous estimez que l'Éveil océanien a fait ses preuves, qu'il existe aujourd'hui pleinement dans le paysage politique calédonien ?
Oui, je pense que l'Éveil océanien aujourd'hui a démontré pas mal de choses. Nous sommes arrivés en 2019 de manière un peu tonitruante, comme un objet politique quasiment non identifié, avec un discours totalement différent du discours traditionnel d'être un mouvement politique pour la France ou pour l'indépendance. Nous avons fait des sièges au Congrès. En 2020, nous avons une représentativité au niveau des communes. Donc le bilan est assez positif. Hein. Je rappelle quand même qu'on est de la deuxième force sur Païta, la deuxième force sur Dembéa. On est représenté dans la commune de Nouméa, ce qui n'est pas une chose facile, et dans la commune du Mont-d'Or.
Alors dès le début, on a critiqué, on vous a qualifié de parti communautaire. 5 ans après, c'est toujours le cas. Je sais que c'est une image que vous n'aimez pas.
Hein. Il y avait deux critiques concernant l'Éveil océanien. Un, c'est ce que vous dites, Elisabeth, qu'on était un parti communautaire. Ça aurait été le cas si on avait pris comme nom politique l'Éveil wallisien futunien, ce qui n'est pas le cas. Nous avons créé une liste avec que des wallisiens et des futuniens. Je l'ai assumé. J'ai aussi dit que ce serait la seule et unique fois. Donc ça, c'est la première chose dont on nous a qualifié. Aujourd'hui, je peux vous dire que dans nos structures, et ça s'est vu lorsque nous avons fêté nos 5 ans, qu'aujourd'hui, l'Éveil océanien, il y a l'ensemble des communautés du territoire qui nous ont rejoints.
Avec quand même une majorité de Wallisiens et de Futuniens.
Oui, avec une majorité de Wallisiens et de Futuniens, ça ne change pas. Vous pouvez regarder les partis indépendantistes comme les partis non indépendantistes. Pourtant, vous ne les traitez pas aussi de partis communautaires. La deuxième chose qui était importante selon nous, c'était qu'on nous traitait de personnes incompétentes. Je crois avoir démontré avec mes collègues, notamment par l'ensemble des réformes que nous avons portées, que nous sommes des bosseurs, des travailleurs. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que l'étiquette à la fois communautaire et d'incompétent est totalement irradiée.
Incompétent, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le reproche qui vous a été fait. En revanche, partie charnière, c'est-à-dire partie qui fait la bascule entre l'un et l'autre, qui effectivement qui ne choisit pas son camp ou qui, après avoir dit qu'il ne choisirait pas, choisit le camp des indépendantistes, ça c'est un reproche qui vous est fait. Alors, vous en êtes où aujourd'hui ? Vous êtes positionné comment ? Vous aviez dit au début que vous feriez la bascule en donnant une institution au Congrès, une institution aux indépendantistes, le trône indépendantiste. Et finalement, on s'aperçoit que globalement, vous votez toujours avec les indépendantistes, que vous avez fait une majorité avec eux.
Écoutez, déjà, je crois qu'il faut. Il y a un indicateur quand même qui ne trompe pas. C'est que si vous venez un jour dans notre mouvement, vous poserez la question à plusieurs personnes. Les uns vous diront qu'ils sont non-indépendantistes et les autres vous répondront qu'ils sont indépendantistes. Donc ça qualifie bien le mouvement qui a les deux sensibilités. Deuxièmement, on a essayé de faire en sorte que les deux blocs puissent travailler ensemble parce que c'est notre vision du pays. Sauf qu'en faisant ça, il n'y a pas de majorité clairement définie dans le pays. Et pourquoi il faut une majorité ? Parce que le pays a besoin de réformes. L'État, je crois, financier de la Nouvelle-Calédonie, surtout après les deux crises sanitaires que nous avons vécues, commande de faire des réformes. Et si vous voulez faire des réformes, il faut une majorité clairement définie. C'est ce que nous n'avons pas du côté des non-indépendantistes. Je le dis, nous avons essayé de le faire lors du 16e gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé au Congrès ? des lois qui étaient rejetées parce que la majorité n'était pas clairement définie. Donc est-ce qu'il fallait rester dans l'attentisme? Non, je ne crois pas. Si on a des responsabilités dans ce pays, c'est pour faire des choix politiques. Il y a une majorité clairement définie aujourd'hui, 29 sièges au Congrès. Il y a des réformes qui arrivent du gouvernement.
Il n'y a pas beaucoup de réformes, je sais. C'est un peu le reproche que fait la population, c'est qu'on parle beaucoup de réformes, mais elles n'avancent pas, quoi.
Ben, elles n'avancent pas parce que certains de nos camarades au Congrès utilisent aujourd'hui des dispositifs législatifs pour soit retarder les échéances, soit pour totalement les annuler, ce qui ne va pas dans le bon sens. Je pense qu'on est arrivé à un moment aujourd'hui où il n'y a plus de place pour la politique politicienne et que je sais combien les réformes sont difficiles. Néanmoins, il n'y a pas d'autres possibilités. Et s'il fallait nous en convaincre, même l'État français demande aujourd'hui, vous voulez des subventions, vous adoptez les réformes et on vous donne des subventions. Alors si ça, c'est même pas signe de volonté de réforme, je ne sais pas ce qu'il faudra faire.
Mais donc la majorité ne suffit pas pour faire passer ces réformes. Il faut également une volonté de l'ensemble des élus.
Ben, s'il y a un arrêt des demandes de seconde lecture ou d'introduction de QPC à la Cour constitutionnelle, les choses elles avanceraient beaucoup plus vite. Je ne suis pas sûr que si le gouvernement changeait de couleur demain, par exemple, les choses seraient totalement différentes. Enfin, on a des problèmes quand même dans notre pays qui sont des problèmes qui sont d'ordre structurel. Et ce n'est pas des pansements qui vont les réparer. Il faut des solutions structurelles.
Et quand vous participez à cette majorité indépendantiste, vous influez sur les textes ou vous votez des textes préparés par les indépendantistes?
Non, je crois que le gouvernement, dans sa prérogative, prépare des textes avec des équilibres qui se retrouvent au gouvernement. Moi, en tant qu'élu au Congrès, ce que nous, on essaie de faire, c'est d'aller chercher des éléments pour avoir une adoption de ces textes à la majorité relative, si ce n'est pas possible. Mais sinon, on essaie de chercher l'unanimité. Je ne crois pas qu'il y ait de formalisme pour dire les textes, ils arrivent, donc on les vote. Le gouvernement propose, et c'est le Congrès qui est censé les adopter avec l'équilibre qui lui semble correct.
On reparlera des textes plus tard, notamment des textes du Roi, emblématiques si l'on est. Je voudrais vous entendre sur les discussions sur l'avenir, sur la fameuse recherche d'un accord institutionnel et politique. Vous participez à ces discussions sur l'avenir. Alors, oui. À quel titre, là, pour le coup? Avec les indépendantistes, avec les non-indépendantistes ou en tant qu'entité propre?
Ben, en tant qu'entité propre, en tant que président de l'éveil océanien. Je crois qu'il y a eu deux séquences. La première séquence, c'est ce que je qualifierais de séquence bilatérale. Donc chacun est parti discuter avec l'État. Et puis on est rentré dans une deuxième phase aujourd'hui, qui est la phase de discussion calédonienne, d'initiative locale, parce que nous, on l'avait proposé déjà il y a maintenant presque 2 ans, on avait proposé discussion calédonienne en 2022.
Alors, beaucoup de gens l'ont proposé, mais jusque-là, les indépendantistes étaient cabrés sur bilatéral avec l'État. Oui. Aujourd'hui, ils disent que c'est un échec. Vous considérez aussi que c'est un échec?
Je considère aussi que c'est un échec. Et puis, de toute façon, les Calédoniens, je crois qu'ils se parlent mieux quand le représentant ou les représentants de l'État ne sont pas là. C'est ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Il y a des progrès qui ont été faits dans les discussions jusqu'à l'arrivée de Gérald Darmanin il n'y a pas si longtemps, qui, je crois, a fait riper le calendrier ou, si je parlais de manière empirique, a totalement arrêté les discussions ou du moins les a suspendues.
Alors, on ne s'y retrouve pas forcément. Il y a eu des discussions dans un premier temps, semble-t-il, avec Calédonie Ensemble, les indépendantistes et vous. Vous y étiez.
Alors, ces discussions-là ont eu lieu entre Calédonie Ensemble et les indépendantistes. Philippe Gomez nous avait sollicité à un moment dans l'histoire pour nous présenter un point d'étape sur les discussions. Mais à part cela, nous n'avons pas, selon mes termes à moi, travaillé et discuté sur le document de convergence.
Alors en revanche, il y a eu ensuite des discussions entre les indépendantistes, les loyalistes et le Rassemblement, et là vous y étiez aussi.
Oui, nous y étions aussi. Une série de rencontres ont eu lieu. Ensuite, on s'est déplacé au Sheraton Deva pour faire ce conclave. Parce que se voir une fois par semaine à raison de 4 à 5 heures pour parler d'avenir et essayer de trouver un consensus, ce n'est pas suffisant. Donc on s'est enfermé pendant 48 heures pour essayer de déblayer le terrain.
Et alors là-dessus, ça devait reprendre, et l'UC dit qu'elle ne veut plus discuter avec les loyalistes et le Rassemblement. Les discussions sont suspendues ou est-ce qu'on dit par ailleurs qu'elles ont repris néanmoins?
Alors, je pense que lors de la venue de Gérald Darmanin, je crois comprendre qu'il y a eu un comité directeur de l'UC qui ont décidé que les discussions, en tout cas locales, se poursuivent. La venue de Gérald Darmanin a créé ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, en tout cas, et ça a stoppé les discussions, et l'Union calédonienne, par la voix de son bureau, a écrit un communiqué pour suspendre les discussions. Pour l'instant, on en est là aujourd'hui. Je crois que tout le monde a compris que pour pouvoir trouver un accord, il faut à minima continuer à se parler. Et en toute modestie, c'est ce qu'on essaie de faire à l'éveil océanien, c'est de permettre aux uns et aux autres de se reconnecter et de se reparler.
Alors vous parlez, mais est-ce que ça avance? Et de quoi parlez-vous? Est-ce qu'il y a des avancées concrètes sur certains points ou est-ce que vous en êtes encore aux prémices de la discussion?
Je pense que les sujets qui sont aujourd'hui les nœuds pour parvenir à un accord, je crois qu'on les connaît. Il y a deux essentiellement, c'est le corps électoral et puis un nouvel acte d'autodétermination. Les sujets tournent autour de cela parce que je crois que tout le monde a compris que l'architecture institutionnelle, qu'il fallait la faire évoluer. Sur ça, on est d'accord. Et je ne parle pas de la répartition des sièges, je parle de l'ensemble des institutions de la Nouvelle-Calédonie, comment on est capable de les refonder pour donner un souffle nouveau. Sur ces deux points-là, ce sont les deux piliers qui nous permettront d'obtenir un accord, et sur ces sujets-là, nous n'y arrivons pas, pour le moment. Et un troisième sujet qui s'est invité à la table, c'est celui de la répartition des sièges au Congrès, qui fait l'objet également de discussions. Et pour le moment, je crois qu'il est trop tôt pour dire il y a un accord sur le corps électoral, il y a un accord sur truc, parce que l'accord, en vérité, il doit et il va être de manière globale.
Mais vous croyez qu'un accord est possible ?
Oui, parce que de la fenêtre où je suis, je pense qu'il ne manque pas grand-chose. Et oui, une deuxième fois, parce que je suis un éternel optimiste.
Et vous pensez que ce sera fait dans les mois qui viennent, puisque Gérald Darmanin semble suspendre la révision constitutionnelle à la possibilité d'un accord.
En tout cas, c'est ce qu'on comprend dans ces déclarations. Je crois d'ailleurs que le projet de loi constitutionnelle entre en vigueur au 1er juillet s'il n'y a pas d'accord. Le projet de loi constitutionnelle, il dit quoi? On vient supprimer l'alinéa qui est venu geler le corps en 2007 pour le rendre glissant. Il n'y a que ça dans le projet de loi constitutionnelle. Et c'est un peu déséquilibrant parce que dans ce projet de loi constitutionnelle, il n'y a pas de nouveau référendum. Même si dans tous les documents que nous avons vus circuler, en tout cas le document martyr, le droit à l'autodétermination, c'est un droit qui est respecté.
Que l'État n'a jamais contesté.
L'État n'a jamais contesté, pourtant il n'est pas dans le projet de
loi
constitutionnelle.
Mais c'est même lui qui l'a mis sur la table en disant qu'il fallait trouver un accord là-dessus. Et apparemment, il n'y a pas d'accord entre indépendantistes et non-indépendantistes.
Il n'est pas dans le projet de loi constitutionnelle, c'est ce que je constate. Maintenant, le 2 avril, le projet de loi constitutionnelle va passer en séance publique au Sénat. S'il est adopté, a fortiori, il y a de fortes chances, je ne suis pas sûr à 100%, il y a de fortes chances que le texte soit également adopté à l'Assemblée nationale. Ce qui signifie qu'un congrès de Versailles, qui réunirait les deux chambres au Parlement, adopterait le projet de loi constitutionnelle. Dans ce cas-là, je ne suis pas certain que les formations politiques, qu'elles soient non-indépendantistes ou indépendantistes, continuent à discuter. Donc en vérité, notre ennemi aujourd'hui, c'est le temps.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce projet de loi? Alors, vous le trouvez incomplet? Enfin, vous auriez préféré un projet de loi constitutionnelle qui comprenne à la fois le droit électoral, la liste électorale et l'autodétermination. En attendant, il n'y a pas urgence à dégeler, ou en tout cas ouvrir le corps électoral pour intégrer les natifs et les personnes qui sont là depuis plus de 10 ans?
Mais nous, on a fait une proposition dans notre projet que nous avons remis à l'État, parce que nous avons quand même trois listes spéciales, enfin trois listes, la générale, la paix, les élections provinciales et la référendaire. Nous, on a proposé une vision qui consiste à dire qu'il faudrait fusionner les listes et faire en sorte que la paix et la consultation soient la même. Aujourd'hui, la provinciale, c'est que le droit du sang, je vais faire simple, alors que la liste référendaire, qui, selon mon point de vue, aurait dû être beaucoup plus contraignante, ne l'est pas finalement, parce que c'est à la fois le droit du sol et le droit du sang. Voilà, la chose la plus naturelle aujourd'hui, c'est de fusionner les deux listes et dire que la provinciale, c'est également le droit du sol. C'est-à-dire que tous celles et ceux qui naîtront en Nouvelle-Calédonie seront citoyens et donc pourront participer aux élections provinciales et voter à une future consultation. Aller au-delà, c'est-à-dire rendre le corps électoral glissant, c'est une autre paire de manches. Je comprends les enjeux.
Pour les natifs, tout le monde est d'accord d'ailleurs. Les indépendantistes
sont admis,
je
crois que tout le monde est d'accord. Et je crois qu'on est, je crois, à un millimètre de parvenir à un accord. L'UNI a parlé de code de citoyenneté. Calédonie Ensemble a parlé de code de citoyenneté. Pour l'instant, il n'existe pas. Et je pense que la clé qui permettra de résoudre le corps électoral dans sa globalité passera, je le pense, par un code de la citoyenneté.
Mais on dit aussi que faire des élections provinciales sans avoir ouvert le corps électoral, ça ne passera pas juridiquement, qu'il y aura des recours qui seront faits, que les élections pourront être annulées. Donc il faut impérativement ouvrir un peu le carcan, là.
Mais vous savez, juridiquement, il y a beaucoup d'interprètes. Je ne suis pas juriste. J'entends éventuellement que des recours pourraient être faits. J'entends aussi de l'autre côté que dans l'accord d'Ouméa, c'est écrit de manière très explicite, la Calédonie restera à son dernier stade d'évolution. Cela étant constitutionnellement garanti. Je crois que le mieux pour sortir de l'ornière, c'est pas d'essayer de passer en force, c'est effectivement de se mettre autour de la table, de reprendre le dialogue, essayer de sortir un accord que tous les Calédoniens attendent.
Mais même sur un plan démocratique, vous, qu'est-ce que vous pensez du fait que des gens qui sont installés depuis 20 ans en Nouvelle-Calédonie n'aient pas le droit de voter ? Ça vous paraît admissible aujourd'hui encore ?
Je pense que pour celles et ceux qui sont là depuis 20 ans et qui ont décidé de faire de cette terre, qu'est la Nouvelle-Calédonie, la leur, je trouve ça un peu aberrant. De là à le rendre glissant 10 ans, je pense qu'il faut quand même prendre des gants et essayer d'avoir une vision qui est un peu différente. Le problème, c'est que la plupart des mouvements politiques prennent le corps électoral comme étant un sujet, prennent l'autodétermination comme un sujet, mais je pense qu'on ne prend pas l'histoire pas le bon bout, parce que s'il y a un acte d'autodétermination, on va encore se fighter dans le délai qui sera soumis à un accord, dans 20 ans. On va laisser encore à nos enfants ce que nous avons vécu. Et si on parlait plutôt d'un projet politique qu'on pourrait partager les uns et les autres ? Nous, c'est ce qu'on dit.
C'est-à-dire une autodétermination sur un projet. Enfin, au lieu d'un référendum d'autodétermination, un référendum sur un projet. C'est quand même l'idée qui est actuellement dans l'air, qui est actuellement travaillée, non ?
Oui, mais je crois que ce qu'il faut travailler, c'est le projet en lui-même. Comment on arrive à trouver un projet entre celles et ceux qui veulent rester au sein de la République, celles et ceux qui souhaitent en sortir ? Donc, soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. Nous, on a proposé d'être avec. Ça pourrait être un chemin qui...
Est-ce que pour vous, les trois référendums n'ont pas apporté la solution, n'ont pas donné une réponse ?
Mais ce qui est clair, je crois, selon moi, c'est que les consultations ont été organisées pour questionner la Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens. La réponse, en tout cas sur les deux premiers référendums, est incontestée et incontestable. 47-53. Est-ce que c'est un 80-20 ? Est-ce que c'est un 70-30 ? Non, c'est presque la moitié, Elisabeth. Tout le monde a dit que le droit à l'autodétermination doit survivre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra reposer la question. Ce qui est sûr, c'est que les référendums n'ont pas accouché d'un oui. Donc la Calédonie va rester au sein de la République française. Jusqu'à quand ?
Alors que si ça avait été un oui à 52 ou 53, comme vous le savez, la question ne se poserait même plus.
Mais je ne suis pas sûr que les gens du non accepteraient un oui et que les gens du oui acceptent un non. Et la difficulté, elle est là aujourd'hui. Donc entre le dedans et le dehors, nous, on propose un avec qui est à mi-chemin et qui, je pense, pourrait correspondre à l'ensemble des Calédoniens. Bon, c'est ce qu'on a proposé dans notre non, pas maintenant. Maintenant, les discussions se poursuivent, on verra où elles nous mèneront.
Une autodétermination sur deux générations avait proposé l'État au début du document Martyr. Ça vous convient ou ça vous paraît trop long ?
Je pense que, encore une fois, la question est mal posée. Parce qu'en vérité, si vous avez défini votre projet plus tard, là, vous définirez combien de temps il faut pour le faire. Et de prendre le corps électoral, l'autodétermination, le temps pour le faire, et puis après, de décider après plus tard ce qu'on va faire, ce que je ne souhaite pas. Parce que ça, c'est vraiment prendre par le petit bout, et puis de laisser nos enfants, débrouillez-vous avec ça plus tard. Non, essayons de construire quelque chose pour que nos enfants puissent avoir des perspectives d'avenir. C'est ce que nous, on souhaite.
Parmi les questions également en suspens, vous en parliez, le troisième point, la troisième pierre d'achoppement éventuellement, c'est le dépôt d'un amendement à la réforme constitutionnelle pour changer la représentation des provinces au Congrès. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Sachant que tout le monde est d'accord, il y a une surreprésentation aujourd'hui des îles et du Nord au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Oui, il y a une surreprésentation, mais ça fait partie des... Enfin, ça remonte à 88, c'est oui. Ceux qui nous écoutent.
Elle s'est accrue avec le temps.
Confirmée en 1998, et je crois encore une fois que la représentativité des sièges au Congrès doit faire partie de l'accord. C'est un accord qui peut défaire un autre accord. Je suis quand même dubitatif, parce que dire que la représentation au Congrès va permettre aux uns et aux autres de récupérer le pouvoir, je ne suis pas sûr que ce soit une certitude, parce que ça dépend si les listes, en tout cas les mouvements non-indépendantistes et indépendantistes sont unis. Je rappelle que c'est la division des listes qui défavorise ou qui fait perdre du terrain aux uns et aux autres dans les institutions. Et deux, augmenter les sièges aux provinces sud, supposons qu'ils avaient 5 sièges en plus, ces 5 sièges, je n'ai pas sûr qu'ils appartiennent aux non-indépendantistes seuls. Je rappelle que à la province sud, toutes les formations politiques sont représentées, donc il y aurait une répartition équitable. Par contre, diminuer les sièges en province nord et en province des îles diminuerait les chances pour les autres listes non-indépendantistes d'obtenir des sièges, a fortiori s'ils arrivent divisés. En tout et pour tout, je pense que l'unité prime, c'est ce qui est important pour avoir le pouvoir, ce qui ne l'est pas depuis 2019, et que d'essayer de corriger la représentativité pour essayer de le récupérer, que c'est acquis tout double.
Non mais au-delà de la tactique électorale, parce que là, c'est ça ce que vous venez de faire, est-ce qu'il n'y a pas une exigence démocratique que les populations soient effectivement représentées à hauteur de leur nombre, de la démographie ?
Oui, on peut penser qu'il faut une petite réparation, mais on ne peut pas prendre les sujets un à un et dire que ça, on aurait une répartition comme ça. Ça fait partie de l'accord global. Après, je crois que dans à peu près tous les pays du monde, il y a toujours ces histoires de surreprésentativité. Vous prenez le territoire de Wallis, depuis 1961, la représentativité, elle est ce qu'elle est. Certains demandent à la changer, mais les choses n'avancent pas. Même en France métropolitaine, sur la répartition des sièges de députés, il y a aussi...
C'est jamais exact, mais il faut que ce soit juste.
C'est jamais exact. Ben après, ça dépend.
Et il faut que ce soit accepté.
Oui, mais il faut que tout le monde soit quand même représenté dans les arcanes du pouvoir. Donc, c'est là les équilibres qui doivent être trouvés.
Vous pensez déjà aux prochaines provinciales, on imagine ?
Absolument pas. Je pense que c'est une erreur de penser aux prochaines élections.
Vous pensez qu'elles auront lieu à la fin de l'année, là, ou que ça va être trop court ?
Alors, nous, on a dit que les élections le 15 novembre, c'était en cas d'échec. Et je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'accord, le projet de loi constitutionnelle est adopté, les Calédoniens ne se parlent plus. Et dans ce cas-là, on a des élections le 15 décembre. Est-ce qu'on aura des élections le 15 décembre ? Ça, c'est la grande question. S'il y avait un accord, le calendrier, selon nous, va se déporter un tout petit peu.
Et en cas d'élection, que ce soit à la fin de l'année ou à la fin de l'année prochaine, il y aura des listes de l'éveil océanien dans les 3 provinces ?
Je pense que oui. L'éveil océanien n'est qu'à son début de son histoire. Le mouvement politique doit continuer à vivre. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas notre priorité, ni dans nos discussions. Nous avons un mandat, nous avons des responsabilités. Nos responsabilités, c'est de réformer le pays, un. Et deux, c'est de donner des perspectives d'avenir à nos enfants. On trouve un accord.
Alors, les actualités se télescopent, puisque ces discussions se déroulent également sur fond de crise économique grave, avec notamment la crise du nickel. On imagine que ça vous inquiète, la situation des 3 usines, notamment celle de l'usine du Nord qui a été mise en sommeil.
Oui, on est très très inquiet, Elisabeth. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour apporter tout notre soutien au titre de l'éveil océanien à l'ensemble des salariés et des prestataires, et ainsi qu'à leurs familles pour les dommages causés. Je sais que c'est une épreuve difficile. Et qu'il faut maintenant trouver des solutions pour sortir le nickel, d'une manière globale, de l'ornière.
Pour faire bref, le pacte nickel doit être signé ou non ?
Écoutez, je n'ai pas participé aux travaux concernant, je ne sais pas tous les tenants et les aboutissants du pacte nickel.
Mais le congrès doit être consulté le 21 mars.
Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit impérativement sauver les 3 usines, parce que les 3 usines sont en difficulté. et que ça, c'est dans le pacte nickel. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Nous, en tout cas, on ne se mettra pas en travers de dispositifs pour pouvoir sauver ces usines, ces emplois et ces familles.
Alors, en attendant, cette crise nickel a des conséquences importantes sur toutes les communes de la Nouvelle-Calédonie et aussi, bien sûr, sur ses finances publiques et ses comptes sociaux. Est-ce que vous avez pu mesurer déjà, est-ce qu'on a, on a un peu une idée des conséquences de cette crise, notamment sur le ROAM ?
Alors, oui, nous avons à notre... je crois qu'il y a un mois, on a eu une commission sur le ROAM où il fallait débattre des chiffres annoncés par Mme Ruffnac. Bon, j'avais demandé une note au président du conseil d'administration de la CAFAT sur les conséquences de la fermeture de KNS. Cette note a été transmise. Sans surprise, le régime du chômage explose. Et donc, il faut apporter des solutions concrètes. Il y a un texte qui a été adopté au gouvernement il n'y a pas si longtemps, proposer des mesures de chômage partiel type Covid. On en débattra au niveau du Congrès.
Et on le finance comment ? Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui dans l'état des finances publiques ?
Mais l'état des finances publiques, je crois que l'ensemble des Calédoniens doivent le savoir. Le pays est endetté à plus de 150%. Pourquoi ? Parce qu'avant les pré-Covid en 2020 et 2022, le taux d'endettement il était presque à 100%, alors que le seuil prudentiel, c'est 90%. Nous avons emprunté 28 milliards d'abord, puis ensuite 22 milliards, donc fait la bagatelle de 50 milliards, sans compter les 15 milliards de subventions sèches que l'État français nous a données. Ces prêts, on les a faits, nous devons maintenant les rembourser. Donc les rembourser, c'est presque 3 milliards par an. Il faut les trouver, les 3 milliards. Et puis, à côté de ça, nous avons le RUAM qui est déficitaire, nous avons la CLR qui est déficitaire, nous avons Enercal qui est déficitaire, nous avons l'ensemble des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie qui sont en réanimation, bien sûr, au sens figuré. Donc, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, la situation est difficile, mais on ne doit pas abandonner les réformes, au contraire. Nous devons les adopter.
Alors la réforme du ROAM, justement, elle en est où ? Parce que là, c'est vous qui la portiez, vous avez présenté une proposition de réforme du ROAM, elle a été adoptée et puis contestée, et maintenant on en est où ? Parce qu'il y a franchement urgence.
Mais...
et même, est-ce que ce n'est pas trop tard aujourd'hui pour le réformer ?
Non, il n'est pas trop tard. Je crois qu'on aurait dû l'adopter plus tôt, parce que la situation était meilleure. Aujourd'hui, avec le contexte nickel, le contexte économique, de manière globale, il va falloir ajuster. Le texte a été adopté le 19 octobre dernier, à l'unanimité, je le rappelle. L'ensemble des groupes politiques, après avoir critiqué le projet de texte, a été adopté à l'unanimité.
Il avait été un peu amendé quand même.
Oui, avec nos amendements à nous, mais oui, il est adopté à l'unanimité. Deux semaines plus tard, le groupe Les Loyalistes et le Rassemblement déposent une demande de seconde lecture. Ils contestent les chiffres. Ils ont le droit de contester les chiffres. Il y a un mois, la CAFAT vient présenter ses chiffres. Et donc, ils ont pris quand même un peu de temps pour corroborer leurs chiffres. Et je crois qu'à la Commission, tout le monde est d'accord pour dire « Ok, les chiffres côté NSC, c'était des chiffres pour faire peur. Nous avons plus ou moins les bons chiffres. » Ça va coûter un peu plus cher, mais pas de l'ordre de ce qui avait été annoncé. J'ai proposé aux collègues de la commission, vu le contexte nickel aujourd'hui, la situation de KNS, qu'il serait préférable de le délayer un tout petit peu. Les collègues m'ont suivi, nous avons fait une commission, on s'est réunis la semaine dernière, nous avons décidé ça, donc on décale un petit peu la réforme. Le temps qu'on ait un peu de visibilité sur le pacte nickel, si on a de la visibilité, alors on reprendra la marche et on adoptera la loi. Je rappelle que la loi elle ne fait pas de mal encore aujourd'hui et que ce sont les délibérations. Et c'est là qu'il va falloir, travailler de manière très forte. Et pour l'instant, on n'y est pas encore parce que la loi n'est pas adoptée. Il ne faut pas oublier quand même qu'à la réforme du RUAM est conditionnée la subvention de l'État et qu'il manque 1,4 milliard et qui aujourd'hui fait gravement défaut. Trésorerie.
Le président du gouvernement a demandé que l'État verse quand même la subvention, même si la réforme n'était pas adoptée. Je ne sais pas s'il a eu une réponse.
Je pense que l'État n'est pas dupe et que si elle versait les 1,4 milliard, dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin de faire des réformes. Nous avons, sous ma proposition que j'ai faite au conseiller, c'était d'écrire un courrier au commissaire qui soit transmis aux instances de l'État pour leur dire que les membres de la commission, l'ensemble des groupes politiques savent que le 1,4 milliard est conditionné à la réforme du RUAM, mais compte tenu de la situation de KNS et du nickel, qu'on va la délayer, mais qu'on s'engage à travailler rapidement et trouver un consensus pour l'adoption définitive de la loi RUAM.
Une façon d'obtenir quand même le 1,4 milliard, même si ce n'est pas encore voté, quoi.
Mais la loi...
De toute façon, il va bien falloir financer le chômage.
Mais pas que le chômage, le RUAM aussi. Mais parce que je pense que les gens n'ont pas bien compris que si jamais on ne faisait pas de réforme, il va quand même falloir trouver 10 milliards pour boucher le RUAM en 2024. Et que si la réforme n'était pas adoptée l'année prochaine, ben, il va falloir encore trouver 10 milliards pour l'année prochaine. Donc ça fait 20 milliards. Donc je pense que la réforme, même si elle fait mal, elle fait moins mal que trouver 20 milliards.
Il faudra à nouveau se tourner vers l'État, selon vous ?
Mais je pense que l'État ne peut pas répondre de manière définitive. L'État peut apporter une réponse conjoncturelle, peut donner des subventions pour nous aider à faire tuilage entre la situation qu'on a aujourd'hui et la situation de demain. La solution structurelle est sur nos compétences. C'est nous qui devons l'apporter et personne d'autre. Et pour l'instant, je n'ai pas vu d'autres réformes pointer le bout de son nez pour essayer de réparer le RUAM ou que sais-je.
Le temps passe. On va terminer sur une note un peu plus souriante. C'était aujourd'hui, on célèbre aujourd'hui les 10 ans du RAI, le réseau d'autocars interurbains. Vous en êtes le président ?
Oui.
Ça marche comment ?
Ben écoutez, moi je suis président du RAI depuis décembre 2021. Le RAI a été créé sous la houlette du membre du gouvernement Gilbert Tuénan il y a maintenant 10 ans. Aujourd'hui, on fête les 10 ans. Depuis que je suis président, ma tâche s'est articulée autour de 4 poteaux principaux. Un, la réorganisation du SMTI, c'est important. Là, c'était la fin d'un cycle, donner un souffle nouveau. Deuxièmement, le renouvellement de la flotte. Vous avez dû le voir, nous avons 40 nouveaux bus flambant neufs qui sont arrivés et qui roulent depuis maintenant 2 mois. Troisième chose, c'est la biétique, c'est très important. Lorsque vous habitez la Foix et que vous attendez le quart de Kouma, que vous n'êtes pas sûr si vous allez avoir une place intérieure du bus ou pas, c'est inadmissible aujourd'hui dans un pays où on souffre d'insularité, voire double, voire triple. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut désormais faire changer. D'ailleurs, à ce sujet, je m'envole pour la métropole demain pour justement discuter avec des entreprises qui proposent de la billettique. Et enfin, quatrième volet, c'est le confort des usagers, ce sont les gares. Gare principale dans le Grand Nouméa, gare annexe Bouraille, Koumac, Koné, Pointe-d'Imier. Ce sont des infrastructures qui sont nécessaires pour que nos usagers puissent se restaurer et puissent aller tout simplement aux toilettes. Je m'envole aussi pour Paris dans ce but-là. Je vais à la rencontre de la ministre des Outre-mer, Madame Guévenou, pour présenter le dossier du SMTI. Et espérer avoir des sous, une participation de l'État.
Combien de temps vous donnez pour finaliser cette grande réforme ?
Je me donne 2 ans. Ça fait 2 ans déjà que j'y suis. Il nous reste les gares. Tout ça est soumis, bien sûr, à un financement. L'ensemble des gares représente un investissement d'1,5 milliard. Et pour l'instant, on n'a pas les 1,5 milliard. Et de toute façon, l'argent, c'est ce qui manque cruellement à notre pays. Mais vous l'aurez compris, Elisabeth.
Et vous allez peut-être rentrer de Paris avec la promesse d'un chèque de l'État pour ce dossier.
Je l'espère fortement.
Merci, Mila Kolo Tokomoli, d'avoir accepté
votre invitation. Merci, Elisabeth. Merci beaucoup.